Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Pour cette première émission de l'année, Franck Ferrand, une fois n'est pas coutume, a choisi de se montrer optimiste. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Vous diriez bien que je suis pessimiste d'habitude, mais c'est vrai que je suis sur cette affaire un tantinet cocardier. Rappelez-vous, il y a un an, à ce même micro, le professeur Fabiani nous avait parlé d'un cœur artificiel autonome qu'on s'apprêtait à implanter chez un patient dans son service à l'hôpital Pompidou. Eh bien ça y est, depuis une semaine, ce cœur est donc greffé, le patient est toujours en vie. Un grand bravo au professeur Carpentier, l'inventeur, et à cette équipe de grands praticien qui maintient la France au premier rang de la chirurgie. Vous retrouverez le professeur Fabiani chez nous prochainement et régulièrement, vous le savez, chez notre ami Jean-François Lemoine.
C'était votre façon de nous souhaiter une bonne année.
Mais oui, je vais le faire maintenant de façon plus explicite, si vous voulez. C'est toujours, vous le savez, une grande joie de vous retrouver. Toute l'équipe se joint à moi pour souhaiter une très belle et grande année à nos auditeurs, qu'ils nous écoutent en direct ou en podcast, en France ou partout dans le monde, grâce à mon site, à celui de la radio, aux réseaux sociaux. Nous ne nous sommes pas vraiment quittés pendant ces deux semaines de rediffusion qui, je le sais, ont par ailleurs été très appréciées.
Et aujourd'hui, je crois que vous allez nous faire rêver.
Et oui, je vous emmène visiter l'un des plus beaux endroits de la planète, le fabuleux ensemble de palais et de temples sculptés d'Angkor au Cambodge. Nous y avons pour guide l'Indiana Jones français, j'ai nommé Jean-Claude Simoen.
Hier, c'était l'épiphanie et Julien, très à propos, nous demande depuis quand on a pris l'habitude de tirer les rois.
Eh bien, je vais répondre à Julien, mais aussi à Stéphane et à Sophie qui posent à peu près la même question. Nous verrons ça à la fin de l'émission, bien entendu. Et d'autant plus volontiers que j'ai entendu hier pas mal d'approximations sur le sujet. Pour le moment, l'heure est venue de grimper sur notre éléphant blanc et d'aller explorer la jungle asiatique et les merveilles incomparables qu'elle recèle du côté d'Angkor.
Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Depuis un siècle et demi, Angkor fait rêver les Occidentaux que nous sommes. Ce très vaste ensemble de palais, de temples, de murs sculptés, une sorte de complexe urbain et hydraulique en plein cœur de la luxuriante forêt cambodgienne, nous fascine par sa taille, par sa splendeur, son raffinement, sa cohérence aussi. Peut-être que ça nous fascine aussi encore par le plan géométrique, vous savez, avec ses routes et ses canaux à angle droit et ses enclos de forme carrée. C'est un peu le Versailles asiatique et même c'est plus que cela. Imaginez de hautes tours de grès, des balustrades avec d'étranges animaux ou des personnages mystérieux dont certains dansants, nous allons y venir, des faces animées, d'étranges sourires et partout, comme autant de pyramides nouvelles, ces espèces de clochetons flamboyants et légèrement cintrés. Vous êtes en présence des pittoresques vestiges de l'exotique empire Khmer. Un site qui s'étend, tenez-vous bien, sur 400 km carré, en partie repris et envahi depuis par la forêt. De l'aveu de plusieurs amis, dont je respecte beaucoup le jugement, c'est peut-être l'endroit le plus envoûtant de la planète. J'ai dit que nous parlions d'Angkor en France depuis un siècle et demi, parce que celui qui a fait connaître ces merveilles aux Européens, celui en tout cas qui devait leur assurer la gloire, disons, est un officier de marine français, missionné par la Société de Géographie et qui s'était embarqué pour l'Indochine au printemps 1873. C'était Louis Delaporte. Il va faire connaître et aimer l'art khmer au public. C'est cette dimension artistique sur laquelle, et notamment sur les sculptures, hein, sur les bas-reliefs que lui va mettre l'accent. Il sera le fondateur d'un musée khmer en 1882 au Trocadéro, qui va devenir le musée indochinois au moment de l'expo de 89. L'exposition universelle, et en ce moment même, le musée Guimet, donc tout près d'ici, consacre à Louis Delaporte une très belle exposition intitulée « Angkor, naissance d'un mythe », exposition qui, et je vous signale ça avec de véritables feux clignotants, une exposition qui est prolongée jusqu'au 27 janvier, avec notamment des nocturnes les trois prochains mercredis. Voilà, notez bien ça. Voici ce qu'écrit Jean-Claude Simoen. Louis de la Porte aimait à répéter qu'il n'était qu'un demi-conservateur ne se souciant que de l'art. C'est vrai que cette dimension artistique a joué un rôle absolument prépondérant le concernant. L'exposition d'Arcmer avait aussi eu pour conséquence, ajoute-t-il, de susciter un long engouement pour cette civilisation dans laquelle s'interpénétraient les influences de l'Inde et de la Chine, pour ce bouddhisme flamboyant surgi de forêt et jusque-là insoupçonné. Évidemment, de la Porte n'est pas le seul explorateur à s'être penché sur encore. Nous allons parler de Henri Mouhot, de Francis Garnier, bien entendu, mais aussi de trois grands auteurs, trois monstres sacrés de notre littérature qui auront, au début du XXe siècle, des visions contrastées d'encore. D'abord, Pierre Loti, qui découvre le site sous une pluie diluvienne. Je le cite d'après Jean-Claude Simoen. J'attendais une salle immense où je serais seul, et ce n'est encore qu'une galerie infiniment longue mais étroite, oppressante, sinistre, où je frémis presque de rencontrer, dans le demi-jour de l'averse et les fenêtres trop grillées, beaucoup de monde immobile, du monde mangé par les vers, des dieux cadavres, des dieux fantômes assis ou effondrés le long des parois. La plupart ont la taille humaine, mais quelques-uns sont géants et d'autres sont nains. Il y en a d'un gris terreux, il y en a d'une rougeur sanguinolente, et ça et là des dorures, comme des masques des momies brillent encore sur certains visages. Beaucoup n'ont plus de mains, plus de bras, plus de tête. Au trouble de Loti répond le rejet pur et simple de Paul Claudel, dont il faut jamais oublier qu'il a d'abord été un grand voyageur et un diplomate, bien entendu. Jean-Claude Simoen s'amuse à citer un certain nombre des expressions qu'emploie Claudel pour parler d'encore est bien un des endroits les plus maudits, les plus maléfiques que je connaisse, écrit Paul Claudel. Il en reviendra, dit-il, malade, et dans son journal de 1921, il note une atmosphère de décomposition et de fièvre. Alors il compare Angkor Wat, le temple principal à Fontainebleau. C'est vrai que c'est un peu conçu de la même manière. Il écrit que l'accès à l'énorme temple se fait par une chatière repérée dans le palais central par un petit trou noir. Et alors il parle là où Paul Claudel voyait des tiares. Et c'est vrai que ces tours font penser à d'immenses tiares de grès. Eh bien, le mal embouché Claudel, en tout cas il est mal luné sur cette affaire, il parle lui d'ananas, de boîtes rondes, de boules pleines de nuit et de fientes. Vous aurez compris qu'il n'a pas tellement aimé sa visite à Angkor. Il faut dire que, encore une fois, il faut se mettre dans la touffeur, dans la moiteur de cette jungle asiatique extrêmement présente et prenante. Il faut imaginer à quel point ces extraordinaires vestiges artistiques sont en même temps comme prisonniers d'une gangue végétale qui, à l'époque, dans les années 1910-20-30, était considérée comme essentiellement nocive. Quant à André Malraux, eh bien, si vous le voulez, je vais le garder pour la fin, parce que lui, on peut dire que son rapport à Angkor est en soi une aventure.
Sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film Les Deux Frères, sorti en 2004 et réalisé par Jean-Jacques Hano. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la découverte d'Angkor.
Alors, cet extraordinaire ensemble palatial et de temples d'Angkor, on a commencé à en parler en Europe, en Occident, à la Renaissance. Ce sont les Portugais les premiers qui se sont penchés sur cet extraordinaire endroit. Des voyageurs qui étaient établis à Malacca, aux Philippines notamment, qui se rendent en Indochine. Et il y en a un notamment, il s'appelle Diego do Couto, qui est un peu le chroniqueur officiel de l'Inde portugaise, et qui raconte dans son ouvrage s'appelle Décade, il raconte qu'il est tombé sur des ruines fantastiques au cours d'une chasse à l'éléphant, à laquelle l'avait invité le roi local dans les forêts les plus épaisses. Et alors imaginez, hein, ces gens sont en train de chasser le tigre, ils sont à dos d'éléphant, et d'un seul coup ils tombent sur, je cite, une ville dont on avait perdu jusqu'au souvenir. Le roi de l'époque, le roi Khmer, avait oublié l'existence de la ville. Le roi, dit notre témoin, frappé d'admiration, décide sur le champ de transporter sa cour et Angkor va redevenir capitale. Alors ensuite, les explorateurs ne parleront pas beaucoup d'Angkor. La ville d'ailleurs n'est pas restée capitale très longtemps puisqu'en 1594, le roi vit à Lovech au moment où les Thaïs attaquent le pays. Et nombreux sont ceux qui vont se rendre en Indochine, mais visiblement, ils ne s'enfoncent pas suffisamment loin dans cette partie de la forêt continentale pour aller au-devant d'Angkor, qui ne réapparaît guère qu'au XVIIe siècle. Alors, évidemment, un certain nombre de missionnaires, d'explorateurs vont en parler, et Jean-Claude Simoine se fait écho de leur découverte. À l'époque, on se pose de grandes questions sur Angkor, et notamment on se demande qui a bien pu créer cette espèce de vaste cité à angle droit, comme ça, avec ce qui reste comme les vestiges de canaux qui devait être impressionnant, et on se dit que ça doit être Alexandre le Grand qui avait créé ça. Le moine espagnol Gabriel de Santo parle d'Alexandre le Grand, il écrit « Il y a dans ce royaume des ruines, dans une ville antique, dont certains disent qu'elle fut construite par Alexandre le Grand ou les Romains, parce que son plan et ses fortifications le donnent à penser. » Et à la fin du XVIIIe siècle, alors on va changer d'avis sur les origines d'Angkor, c'est le père Langénois, missionnaire à Battambang, qui écrit en 1793, je le cite, « Le Cambodge a des signe qu'il était jadis presque tout submergé, selon l'histoire chinoise, laquelle raconte que les tours de Banon à Battambang et la forteresse de pierre à Angkor, si renommée dans ces parties-ci, et qui est la principale province du Cambodge, a été faite par les Malabars, environ 20 ans avant la naissance de Jésus, quand la mer était à côté, dont le grand lac est encore resté. » Vous voyez que ça faisait fantasmer pas mal, évidemment, cette espèce de Golconde de pierre totalement abandonnée et peu à peu dévorée par la forêt tropicale. Pas de traces historiques de la fondation d'Angkor donc. Les chroniques royales officielles remontent au XVe siècle, les manuscrits gravés au stylet sur des feuilles de latanier ont disparu forcément, et les indigènes avaient fini par se convaincre que la cité avait été tout simplement fondée par les dieux. C'est le cas, vous savez, presque à chaque fois qu'un très grand site finit par se perdre comme ça, on lui trouve une origine divine. Au milieu du XIXe siècle, une description d'Angkor est très largement diffusée. Il s'agit de celle du père Charles-Émile Bouillevaux. Son ouvrage va paraître en France en plein Second Empire en 1857. Alors là, lui, il est précis, il donne beaucoup de détails. Il s'est documenté d'abord avant de partir pour l'Asie. Il a consulté toutes sortes d'ouvrages relatifs aux ruines d'Angkor. Il va séjourner à deux reprises sur place, de 1848 à 1856, puis de 1867 à 1871. Et au milieu du siècle, donc en 1850, il fait partie de la mission du Cambodge et il va rester donc dans la région. Il s'interroge sur la possible action des Khmers. Et avant même d'arriver à Angkor, il note « Le centre d'action de l'ancienne race des Khmers, au temps de sa grandeur, semble avoir été les provinces voisines du Grand Lac. Aussi, c'est là où l'on rencontre les plus nombreux restes d'architecture. Angkor a été longtemps comme le cœur du pays, et c'est dans cette antique cité et dans ses environs que nous trouvons les plus beaux monuments de l'architecture Khmer. » Le voilà donc, ce père Bouillevaux, qui va découvrir on est en décembre 1850, et le premier touriste, si l'on veut. Alors voilà ce qu'il... Je vous propose de lire tout simplement sa relation de sa visite, de sa découverte. Après avoir quitté la ville actuelle d'Angkor, je marchais pendant plus d'une lieue sur un sable brûlant qui mit mes pauvres pieds nus dans un triste état. Enfin, j'arrivais tout à coup au sortir de la forêt, près d'une large chaussée de pierres de taille dont l'entrée était gardée par des lions de fantaisie. En suivant cette chaussée qui traverse un étang où mangeait et se baignait un troupeau de buffles, je vis çà et là plusieurs petits kiosques en partie détruits. Les ruines en révélaient l'ancienne élégance. La pagode d'Angkor, assez bien conservée, mérite de figurer à côté de nos plus beaux monuments. Vous voyez que d'emblée, le père Bouyvau a pris la totale mesure de l'importance du site. « C'est la merveille de la péninsule indochinoise », écrit-il. « Ce temple bouddhique ne ressemble nullement à une église d'Europe. Le principal corps de bâtiment présente un carré parfait. À chaque angle s'élève une belle tour qui se termine en dôme et au milieu se dresse une cinquième tour plus haute que les autres. De grandes galeries dont les murs sont décorés de sculptures réunissent toutes ces tours. » Et un petit peu plus loin, il dit « Quand j'eus visité la pagode, je me dirigeais vers l'ancienne ville, autrefois séjour des rois. Bientôt, je franchis les remparts qui subsistent encore et pénétrai dans l'enceinte en passant sous une porte assez bien conservée. À environ une demi-lieue du mur d'enceinte, je trouvais des ruines immenses qu'on me dit être celles du palais royal. » Le genre d'architecture paraît ressembler à celui de la pagode. Sur les murs entièrement sculptés, je vis des combats d'éléphants, des hommes luttant avec la massue et la lance, d'autres tirant de l'arc et trois flèches en partant à la fois. Ces ruines ne sont pas les seules. L'intérieur de l'ancienne ville en est couvert et il précise « Tout ce que j'ai remarqué a encore me prouve, jusqu'à l'évidence, que le Cambodge a été autrefois riche, civilisé et beaucoup plus peuplé qu'il ne l'est actuellement. Mais toutes ces richesses ont disparu. Cette civilisation s'est éteinte. Aujourd'hui, une épaisse forêt remplit l'enceinte de l'ancienne capitale et des arbres gigantesques croissent au milieu des palais en ruine. »
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, cet après-midi, nous continuons avec vous, Franck Ferrand, à découvrir la ville d'Angkor.
Alors après le père Bouyvau, 8 ans après, c'est un entomologiste, Henri Mouhot, qui va débarquer sur les lieux le 22 janvier 1858. Son expédition est importante, hein, il part avec l'aide de sociétés savantes britanniques. Et à Angkor, il va prendre beaucoup de notes. Il raconte sa visite dans une revue à grand tirage, Le Tour du Monde. Et c'est lui qui, c'est un petit peu injuste hein, pour les prédécesseurs, mais c'est lui qui va passer pour le découvreur, le véritable découvreur de la cité. Alors, en fait, il comprend, et ça, c'est vraiment Mouhot qui va prendre la totale dimension des lieux. Il comprend que le royaume en question comptait pas moins de 120 rois tributaires, hein, c'est-à-dire que imaginez une sorte de gigantesque colonie, en quelque sorte, et une armée qui pourrait se chiffrer en termes totalement uniques dans l'histoire, puisque une armée dont on pourrait penser qu'elle ait compté 5 millions d'hommes. Donc, un empire khmer d'une puissance et d'un rayonnement tout à fait considérable. Ça, c'est une découverte. Vous savez, on parle toujours des découvertes géographiques. Évidemment, au XVIe siècle, on découvre un continent entier. C'est fascinant. Au XVIIIe, on en redécouvre encore un autre. Mais là, ce qu'on découvre, c'est un empire dont on aurait, sans ces travaux-là, dont on aurait presque perdu jusqu'au souvenir. Je trouve ça très émouvant et très passionnant en ce qui me concerne. Alors, Mouhot se demande évidemment ce qu'a bien pu devenir le peuple de ces palais. Les paysans qu'il rencontre vivent dans de vulgaires huttes avec une espèce de toit en feuilles et des colonnes de bambou. Il enquête auprès des autochtones, il les questionne sur les fondateurs d'Angkor. Les Cambodgiens lui répondent que la ville est légendaire, surnaturelle. Pour les uns, les monuments seraient sortis de terre spontanément. Pour d'autres, la construction est l'œuvre du roi des anges, Praen. D'autres encore disent que c'est celle du roi lépreux. Et enfin, d'autres présentent tout ça comme le travail d'un géant. Ça fait penser à ce qu'on a retrouvé en Mésopotamie, à ce qu'on va voir en Égypte, etc. Et même dans notre celtique européenne aussi. Hein, cette idée d'un géant qui est à l'origine de la création des cités, de ces cités titanesques. Pour Mouhot, c'est bien un travail de géant. Ce sont des hommes qui se sont surpassés ici, écrits, qui ont créé ces édifices prodigieux de grandeur, mais aussi de beauté. Donc maintenant, grâce à Mouhot, Angkor est connu dans tout l'Occident. La ville attise la curiosité des Européens. À cette époque, il faut savoir que Napoléon III est en train de se lancer dans une politique coloniale. Il vise l'Indochine. Hein. Les Français sont à Saïgon en 1859. En 1867, la Cochinchine devient un protectorat, bientôt une colonie. Le 11 août 1863, le Cambodge est est sous protectorat de la France grâce au traité signé par Doudard de Lagré, qui va effectuer 3 voyages en Indochine, dont le dernier en compagnie d'un certain Francis Garnier, le colonisateur de l'Indochine. Et évidemment, ce qui paraît le plus extraordinaire à tous ces Français qui débarquent en Indochine, dans ce pays d'une luxuriance, d'une richesse, d'une civilisation, d'un raffinement extraordinaire. On a oublié ce qu'a pu être le rêve indochinois pour la France de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Ce qui paraît le plus extraordinaire, ce sont évidemment les monuments d'Angkor. En 1897, le Congrès international des orientalistes décidera la création d'un institut de recherche asiatique. L'année suivante, c'est Paul Doumer, à l'époque gouverneur général, il n'est pas encore président de la République évidemment, qui va s'intéresser à l'étude de ces monuments avec la commission archéologique d'Indochine, qui va devenir en 1900 l'école française d'Extrême-Orient, la célèbre EFEO. Et puis en 1907, c'est la naissance du conservatoire d'Angkor, chargé de la restauration des monuments. Le conservatoire va débarrasser tous ces monuments de leur végétation, il va commencer à nettoyer les sites, on va démonter certains complètement afin de les rebâtir. C'est le cas du temple de Banteay, Srei, des tours de Bayonne, le Bafuon ou encore Angkor Thom, tout ça est entièrement revu. Et d'ailleurs, on va faire, vous savez, une copie du temple d'Angkor Wat pour la célèbre exposition coloniale un peu plus tard, bien entendu. Alors, on s'émeut beaucoup en Occident de tout cela. On découvre la splendeur de la sculpture khmer. Et évidemment, un certain nombre d'amateurs vont payer très cher pour posséder quelques-uns de ces bas-reliefs extraordinaires avec ces apsaras, avec ces danseuses tout à fait languides, extraordinaires. Et ces frises de bas-reliefs, dont certaines peuvent faire plusieurs mètres de long. Il faut aller au musée Guimet voir tout ça, c'est somptueux. Et évidemment, tout ça m'amène, et j'ai dans les mains un exemplaire de La Voix royale, le célèbre roman d'André Malraux, ça m'amène aux petites affaires d'André Malraux sur place, des petites affaires dont Jean-Claude Sinemoen nous dit qu'elles n'ont pas été, mais alors vraiment pas honnêtes. Bonjour Jean-Claude Sinemoen. Merci
Bonjour,
beaucoup
Ferrand.
D'être avec nous. Votre ouvrage s'appelle « À la recherche des civilisations perdues ». Archéologues et aventuriers, on est dans Indiana Jones avec vous à chaque fois. Et vous nous racontez l'histoire de la redécouverte de ce temple, de cette ville, de cet univers d'Angkor. Et vous nous dites qu'André Malraux ne s'est pas très bien comporté sur place.
Ah, il ne s'est pas très bien, il ne s'est pas du tout bien comporté. Ça a été un fric-frac, mais il faut dire que tout
on
au long...
On est en 23-24, hein.
Oui. Tout au long du 19e siècle et encore au début du 20e siècle, l'archéologie n'est pas encore une science exacte, elle n'est pas installée, on découvre encore énormément de sites, et bien évidemment, c'est l'empire de tous les antiquaires et collectionneurs du monde entier.
Alors, nous allons revenir sur cet antiquaire d'un genre particulier qu'a pu être André Malraux en Indochine dans un instant avec vous, Jean-Claude Sinemoen.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et nous sommes au cœur de l'histoire. Vous nous parlez, Franck Ferrand, aujourd'hui d'Angkor et des autres civilisations disparues avec votre invité, Jean-Claude Sinemoen, historien et éditeur, auteur de « À la recherche des civilisations disparues », archéologue et aventurier aux éditions Perrin.
Et oui, Jean-Claude Sinemoen qui nous offre une belle occasion de nous replonger notamment dans la revue Pour la Science, qui est l'édition française de Scientific American. Vous savez, le numéro de ce mois de janvier est consacré à encore une mégalopole autour des temples. Et c'est vrai que c'est la grande question que se posent les archéologues d'aujourd'hui, c'est de savoir, au-delà de la dimension religieuse et même au-delà du palais, de la dimension palatiale du site, en quoi cet extraordinaire complexe était-il une ville finalement, et quel type de ville. Ça, c'est une grande question sur laquelle nous allons revenir. Et puis, c'est l'occasion aussi de se replonger dans la voix royale d'André Malraux. Alors, vous connaissez le jeune héros de la voix royale, Claude Vanneck, qui parle avec le vieil aventurier Perken, qui lui dit « Parlons d'argent ». « C'est bien simple, » dit Perken. « Un petit bas-relief, une statue quelconque, valent une 30 000 francs. »« Francs or ? Ah, vous êtes trop gourmand. »« Tant pis, il m'en faut 10. »« 10 pour vous, 20. »« 20 pierres. » Évidemment, ce n'est pas le diable. Et d'ailleurs, un seul bas-relief, s'il est beau, une danseuse, par exemple, vaut au moins 200 000 francs. Il est composé de combien de pierres ? 3, 4 ? Et vous êtes certain de les vendre ? Certain. Je connais les plus grands spécialistes de Londres et de Paris, et il est facile d'organiser une vente publique. On sent la fièvre de l'or s'emparer de l'esprit du grand écrivain. Là,
vous avez déjà presque tout dit, on va à l'essentiel, parce que je me permettais de dire comme ça très rapidement tout à l'heure que tous les archéologues, tous les aventuriers, tous les découvreurs d'antiquités, enfin de civilisations, étaient à la solde plus ou moins des grands antiquaires internationaux,
à cette époque, oui.
Des collectionneurs, ce qui revenait tout à fait au même. Et le voyage d'André Malraux avec Clara, à l'époque c'était son épouse, est un voyage d'affaires. Ils vont faire un fric-frac. Il faut appeler les choses par leur nom. Alors après, on a jeté après l'opprobre, les 3 ans de prison qu'il a récolté sur place quand même. On va rentrer un peu dans le détail. Il a fait un comité de soutien, enfin Clara Malraux a organisé un comité de soutien avec les noms les plus prestigieux de l'époque. Hein. Edmond Jaloux, André Gide, Jean Pollan, Mac Jacob, André Mauroy, Jacques Rivière, Martin Dugard, Charles Dubos, Gaston Gallimard, etc. J'en passe et des meilleurs. Donc,
c'est-à-dire que tout le monde s'est déclaré en sa faveur pour éviter qu'il ne fasse ses 5 ans de prison, parce qu'il a été condamné. Donc,
3 ans. Trois ans. Mais il faut dire que pendant...
Oui, c'est 3 ans de prison ferme et 5 ans d'interdiction de séjour.
Absolument. Ouais, pendant plusieurs siècles, à vrai dire, entre le 15e siècle, c'est-à-dire la fin de la civilisation extraordinaire, qui part dans la nuit des temps. Moi, je ferai un rapprochement avec la civilisation nabatéenne de Petra. C'est peu près d'ailleurs les mêmes périodes, c'est-à-dire en tout cas pour la durée, entre 3 et 5 siècles d'existence, et puis ces civilisations formidables
vont disparaître. On pense à Mohenjo-Daro aussi, hein, et à la civilisation de l'Indus. Il y a comme ça ces espèces de grands peuples, oui, dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, en quelque sorte.
Et pourquoi subitement cette civilisation s'est-elle éteinte ?
C'est ça.
Voilà. Et alors, évidemment, elle était la proie de tous les collectionneurs et les antiquaires du monde entier. Et ça a duré très longtemps, jusqu'au jour où, là encore, c'est une tradition française, un peu comme pour l'Égypte, avec Auguste Mariette, il y a un Français qui va serrer les boulons, qui va fermer les frontières, arrêter la fuite des antiquités, et ce Français s'appelle Georges Grolier. Alors, il va jouer un rôle...
On lui doit beaucoup, à lui.
On lui doit énormément, et il va jouer un rôle très, très important avec le couple Malraux. Car, immédiatement, il a une très mauvaise intuition quand Malraux, arrogant, cultivé, sûr de lui, un peu trop, il dit « L'impression que m'avait produite Malraux lors de son passage à Phnom Penh, et bien qu'il me fût présenté par M. Parmentier, qui était le directeur des Antiquités, c'est-à-dire une sommité, voilà, avait été plus que défavorable. Il se montra trop au courant de l'Arcmer, envisagé surtout par un antiquaire. Tout est dit. Voilà. Or, effectivement, André et Clara Malraux vont aller jeter leur dévolu sur un petit temple un peu écarté de la cité d'Angkor, Mantadraï, et ils vont purement et simplement découper 800 kilos de fresques, voilà, uniquement pour les vendre, en disant, en se frottant les mains, c'est formidable, quelle belle affaire. Seulement voilà, quand tout est chargé, alors d'abord sur les charrettes, sur lesquels d'ailleurs, au passage, ont chevauché, si je puis dire, à la fois Pierre Loti et Paul Claudel, pour des interprétations différentes que vous avez rappelées avec beaucoup de justesse tout à l'heure. Claudel qui comprend rien à rien, Loti qui est comme d'habitude...
un peu dans la fantasmagorie, oui.
Époustouflé et plutôt dans la fantasmagorie. Mais avec une belle qualité d'écriture quand même. Il faut lui reconnaître que, comme pour La mort de Filet, il est... enthousiasmé.
À propos de qualité d'écriture, voici ce qu'écrit André Malraux. La vedette des Marats s'enfonça entre les arbres immergés. Les vitres frôlaient les branches couvertes de boue coagulées par la chaleur, de filaments de vases verticaux. Sur les troncs, des anneaux d'écume séchés marquaient la hauteur extrême de la crue. Claude regardait avec passion ce prologue de la forêt qui l'attendait, possédé par l'odeur de la vase qui se tend lentement au soleil, de l'écume fade qui sèche, des bêtes qui se désagrègent, sur le molle aspect des animaux amphibies couleur de boue collés aux branches. Au-delà des feuilles, dans chaque trouée, il tentait d'apercevoir les tours d'Angkor Wat sur le profil des arbres tordus par les vents du lac. En vain, les feuilles rouges du crépuscule se refermaient sur la vie paludéenne. La fétidité lui rappela qu'à Phnom Penh, il avait découvert au centre d'un cercle misérable un aveugle qui psalmodiait le Ramayana en s'accompagnant d'une guitare sauvage. Le Cambodge en décomposition se liait à ce vieillard qui ne troublait plus de son poème héroïque qu'un cercle de mendiants et de servantes, terre possédée, terre domestique où les hymnes comme les temples étaient en ruine, terre morte entre les mortes et ses coquillages terreux qui gargouillaient dans leur coque, ignoble grillon, devant lui, la forêt terrestre, l'ennemi comme un poing serré. Ça n'est pas très accueillant, hein, cette forêt cambodgienne.
Elle est épouvantable. Beaucoup de Français vont le payer de leur vie et ils vont mourir très jeunes. De fièvre, d'épuisement, de maladies diverses et multiples. Et il y en a des quantités comme ça. C'est 30 ans, 35 ans, 34 ans, 40 ans, c'est exceptionnel. Voilà. Mais revenons au couple Malraux. Alors ils jettent leur dévolu donc sur ce temple qui n'est pas un temple royal, mais qui est une petite merveille, qui est un peu écartée, qui est un pur chef-d'œuvre de grès rose, quelque chose d'une délicatesse d'une exceptionnelle,
finesse, oui.
D'une finesse à tomber en pamoison. C'est un ravissement. Donc, ils sont très alertés, ils sont très au courant, ils savent ce qu'ils font, et ils le font exactement comme faisaient les archéologues payés par les grands antiquaires à l'époque pharaonique dans les années 20, 30, 40 et 50, 1800 bien sûr, le plus célèbre étant Giambattista Belzoni. Il découpait purement à la scie des fresques entières. Voilà.
Et des bas-reliefs.
Et je ne vais pas rappeler ici au micro la fresque du Parthénon qui est au British Museum, qui a purement été simplement...
La frise du Parthénon.
La frise du Parthénon qui a été découpée. Donc c'était monnaie courante. Mais là, on savait que c'était pour les grands musées, pour une certaine idée de la préservation des grandes civilisations. Les Malraux, c'est uniquement, c'est pour ça que j'ai employé le mot fric-frac, que je réitère volontiers, c'est du business. Ils viennent là redorer leur caisse personnelle, c'est-à-dire faire de l'argent.
Alors, ce que n'avaient peut-être pas entièrement perçu ces grands explorateurs de l'entre-deux-guerres et que devaient découvrir les scientifiques beaucoup plus récemment, c'est l'immensité du site, parce qu'évidemment, tout ça étant complètement perdu dans une forêt qui avait gagné, qui avait dévoré les vestiges, on en avait perdu la cohérence et l'immensité. Je parlais de 400 km², vous allez
beaucoup,
plus loin, vous
dites. C'est beaucoup plus que
oui,
ça.
Oui.
Oh, c'est beaucoup plus que ça, et nous le savons grâce à la NASA, il y a eu évidemment un épisode épouvantable, parce que jusque dans les années 20, on va redécouvrir la civilisation Khmer. On va redécouvrir cette grande civilisation formidable. On va la préserver, on va l'extraire petit à petit, autant que faire se peut, de cet enracinement gigantesque, cette gangue terrible qui enserre tous les monuments. Et on pense que c'est entre 300 et 400 km². Et puis, il y a évidemment les Khmers rouges de sinistre mémoire, et la NASA va surveiller tout ça, va surveiller les mouvements, les endroits où ils se trouvent, et à plusieurs milliers de kilomètres au-dessus de cette forêt quasi impénétrable, et on va s'apercevoir que ce n'est pas 400 km, mais 1000 m².
1000 km²,
1000 km², il faut que les auditeurs comprennent bien que c'est exactement, à peu de choses près, l'État de New York. C'est-à-dire qu'on va, d'un seul coup, se rendre compte que... il ne s'agit pas de temples épars et divers répartis sur 300 ou 400 km², mais 1000 m² et une cité organisée.
lorsque le temps des aventuriers fut définitivement clos, écrivez-vous dans votre livre, à la recherche des civilisations disparues, les ruines d'Angkor ne furent plus seulement un haut lieu du tourisme exotique, mais aussi le laboratoire d'une splendeur nationale retrouvée. Et plus loin, passé la terreur, la gloire est revenue au royaume des Khmers. Pour paraphraser Claude Lévi-Strauss, disons que la découverte d'Angkor aura permis à l'Occident et à ses prétentions de faire reculer les frontières du bon sauvage aux portes de la Chine. Il existait une très grande civilisation et ce fut peut-être de seulement l'entrevoir, sans tenter de la comprendre, qui rendit Mossad et Pierre Loti et Pierre Claudel.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Sur Europe 1, nous avons tous reconnu un extrait de la bande originale du film Indiana Jones.
Ah oui, finalement, vous voyez qu'il n'a pas mis longtemps, Nicolas, à nous trouver Indiana Jones, dont je parlais à propos tout à l'heure de Jean-Claude Simoen, qui est venu à ce micro un certain nombre de fois nous parler d'archéologie, d'archéologue, de grandes découvertes. Son ouvrage s'appelle « À la recherche des civilisations disparues ». C'est publié chez Perrin, avec tout un cahier de photographies, et ça nous parle de tous ces grands découvreurs. Ça me fascine. Je voyais hier un très beau documentaire sur Arte à propos de la Crète, de la civilisation minoenne qu'on connaît malheureusement si mal et qui est par ailleurs si passionnante. Et je me disais qu'évidemment, Evans a été un personnage magnifique que vous racontez là dans le livre. Il y en a un autre, un personnage que j'ai pour ma part en grande partie découvert grâce à vous, Jean-Claude Simoen, et qui d'ailleurs s'est trouvé au Cambodge, enfin à l'époque c'était pas le Cambodge d'ailleurs, sur le site d'Angkor, et c'est Paul Pelliot.
Alors vous ne pouvez pas savoir le plaisir que vous me faites, parce que voilà, l'un des plus grands savants qui soit, l'un des plus grands sinologues, assurément français, un des plus grands aventuriers aussi, de surcroît, homme très courageux. On va découvrir pour la première fois le nom de Paul Pelliot, alors qu'il est déjà un étudiant extrêmement richement doté, on va dire, il va suivre les cours de tous les grands sinologues de l'époque. On va le découvrir faisant le coup de feu auprès des légations françaises lors du fameux siège des Boxers en 1905. Tout ça a été rendu extrêmement célèbre par ce film qui s'appelle « Les 55 jours
oui,
de Pékin ».
Bien sûr, magnifique.
Voilà. Mais lui va être sur les barricades. Il va même aller attraper un drapeau boxer, le ramener. Il a 22 ans, il est extrêmement intelligent, il est extrêmement cultivé, il parle déjà pratiquement une dizaine de langues, il en lit pratiquement autant qui sont des langues mortes, et il va être décoré à 22 ans de la Légion d'honneur. C'est la première fois qu'on voit le nom de Paul Pelliot. Cet homme éblouissant est le plus méconnu des sinologues français.
Ah oui, ça on peut le dire, hein, objectivement.
Et je trouve ça...
Il est mort assez tard, hein, 1942, oui. pendant la guerre.
45.
En fait,
hein.
45 même, oui.
1945. Il va être professeur au Collège de France. Il va avoir une trajectoire quasi exceptionnelle. Et là, sa grandeur de gloire... pour la découverte de la fameuse grotte numéro 17 dans le Dunhuang, il le doit évidemment à sa connaissance des langues étrangères. Il faut quand même dire qu'il parle le turkmène, il parle le tibétain, il parle le chinois, il parle le japonais, et évidemment il parle le chinois.
C'est de Georges Dumézil avant la lettre.
C'est un Georges Dumézil de l'époque,
oui.
Tout à fait. Voilà. Et il a tous les talents. Il est beau. Il est intelligent, il est cultivé, il est courageux, c'est un aventurier, et il a une focale à 360 degrés. C'est quasi exceptionnel. Alors nous sommes dans le Turkestan chinois, mm-hmm. Et il est précédé.
Et qu'est-ce qu'il vient faire là d'ailleurs ?
Alors il a lu évidemment, il faut dire que cette partie de la Chine est particulièrement enviée par les archéologues du monde entier, et tout particulièrement les Allemands avec un dénommé von Lecoq, l'Angleterre avec Orelstein, lequel est d'origine hongroise, mais il vient d'être fraîchement naturalisé britannique. Et vous savez, tout ce qui appartient à l'Empire britannique, aventurier, explorateur, érudit ou pas, fait partie de l'intelligence service. On va ramasser, pour dire les choses un peu rapidement comme ça. Et la France, elle, a Paul Pelliot. Et cette partie du Turkestan chinois, il n'y a qu'à gratter un peu le sol, écarter un peu le sable pour découvrir tout simplement des trésors. Et là, il apprend qu'il y a une grotte qui est encore murée, et il a l'intuition absolument géniale que ce sont certainement des manuscrits exceptionnels. S'ils ont été murés, c'est que entre les origines du bouddhisme et l'arrivée de l'islam, il y a eu là protection. Et cette intuition va s'avérer tout simplement
réserve,
véridique.
Fait.
C'est formidable.
Il a mis la main sur la réserve.
Sur la réserve. Alors il a été précédé en cela, dans cette fameuse grotte, par Orelstein. Je disais qu'il était d'origine hongroise, mais Orelstein n'a pas l'érudition de Paul Pelliot. Donc, il va quand même...
Il était un peu court, il ne pouvait pas aller aussi loin finalement, parce qu'il n'avait pas tout le bagage nécessaire.
Il n'avait pas... Loin s'en faut. Et alors, il va quand même ramener pour le British Museum quelque chose comme à peu près 2000 manuscrits, c'est pas rien quand même. Voilà. Et puis la grotte est de nouveau fermée, elle est protégée par un moine taoïste qui s'appelle Wang. Et évidemment, Paul Pelliot va faire en sorte de soudoyer, comme l'a fait d'ailleurs Orelstein, le moine Wang. Il va y arriver, mais lui, il va rester sur place. Il va rester sur place un peu plus de 3 semaines. Et comme il possède tout ce bagage linguistique, il va se rendre compte que ce qu'il est en train de découvrir est tout à fait exceptionnel. Par exemple, et c'est peut-être la chose la plus importante qui soit, parmi les documents offrant un intérêt inégalé, il y a un rarissime exemplaire du fameux Sutra du Diamant, daté de l'année 868. Est-ce que vous vous rendez compte ce que cela veut dire? Ça veut dire que ce qui en fait tout simplement le plus ancien livre imprimé existant, 7 siècles, avant Gutenberg.
Eh oui. Les Chinois avaient un peu d'avance une fois de plus. Là.
Voilà. Et donc, l'intuition géniale, parce qu'il s'agit d'un homme éminemment cultivé, Paul Pelliot va se rendre compte qu'il avait eu raison. Car, effectivement, il y avait donc eu, là, dans l'extrémité de la route de la soie, eh bien, il y avait une implantation bouddhique avant les invasions musulmanes.
C'est assez étrange, finalement, que tous ces personnages majeurs, on a parlé de Grolier tout à l'heure, vous nous parlez de Paul Pelliot, aient quasiment disparu des mémoires et des consciences. Hein. Aujourd'hui, on n'en parle plus, finalement, de ces...
Alors, j'ai du mal à comprendre ça, parce que cet homme va revenir en France, on va lui déverser l'opprobre sur des découvertes qui n'ont pas autant d'importance qu'il veut bien, que lui, Paul Pelliot, veut bien le souligner. On va mettre en doute la validité de cette découverte. Il va lutter car il est intelligent. Il va répondre point par point à ses détracteurs. Et il va continuer, il va retourner en Chine plusieurs fois, avec les Chinois avec lesquels, malgré le détournement de la fameuse grotte numéro 17, il faut dire quand même qu'il a emporté, après Orelstein, 3000 documents manuscrits, manuscrits. Pour la plupart, plus de 300 feuilles d'estampage, près de 2000 livres, et écoutez bien, 250 peintures que l'on retrouve actuellement à la Bibliothèque nationale pour la plupart, et
de
bien
France, hein.
Et bien évidemment au musée Guimet.
Pour une fois que cette nouvelle appellation de Bibliothèque nationale de France permet de mieux comprendre. Alors, je ne vous surprendrai pas, Jean-Claude Simone, en vous disant que ce livre, c'est un peu, vous l'avez conçu un peu comme si c'était pour me faire plaisir. Parce qu'il y a là-dedans tout ce qui a littéralement bercé, enthousiasmé mon adolescence. Je disais un mot de Knossos tout à l'heure et de la Crète. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Mais si vous le voulez bien, on va le mettre de côté. Ça nous fera, ça sera l'objet d'une émission à part entière.
Bien volontiers.
J'ai cité les civilisations de l'Indus, la civilisation de l'Indus, ça c'est fondamental aussi.
Alors,
hein, totalement.
Est-ce que
l'angle mort de l'histoire antique.
Il faut que les auditeurs comprennent bien que la civilisation pharaonique, nous sommes en gros à moins 3500 ans avant Jésus-Christ. La civilisation sumérienne, c'est-à-dire Babylone, le décryptage de l'écriture cunéiforme, la fameuse bibliothèque d'Assurbanipal et la mise en perspective de ce chef-d'œuvre de la littérature qui est l'épopée de Gilgamesh, nous sommes à moins 3800 avant Jésus-Christ. La civilisation de l'Indus, dont on commence tout juste à apercevoir les prémices de ce qu'elle fut, nous sommes à moins 8500, voire moins 9000. Or, nous avons découvert, mis à jour, deux villes particulièrement.
Harappa.
Entre autres,
et Mohenjo-Daro.
Voilà, et deux villes où il y avait des gens, des villes habitées par entre 400 000 et 700 000 personnes.
Incroyable.
Ce qui est considérable pour l'époque, avec, écoutez bien, le tout à l'égout, une organisation architecturale et des salles de bain.
En 8000 et quelques avant notre ère, hein, c'est complètement fou. Vous parlez bien sûr aussi de Qumran et des extraordinaires manuscrits de la mer Morte. Et vous nous emmenez en Amérique aussi, parce que alors ça c'est un domaine que moi je connais un peu moins bien, mais on vous suit au pied de la cordillère des Andes, et notamment à la recherche de certaines civilisations beaucoup moins connues que les habituelles...
Particulièrement la civilisation Maya.
Maya, hein, oui.
Et leur fameuse écriture... civilisation qui a été purement et simplement par l'envahisseur espagnol, le conquérant espagnol, rayée de la carte. Purement et simplement, quand je dis rayée, c'est-à-dire jusqu'au langage, jusqu'à la langue, jusqu'à l'écriture. Or, ont subsisté trois codex, dont particulièrement le codex de Dredd, et qui ont permis aux explorateurs de reconstituer à la fois l'alphabet, c'est-à-dire les fameux glyphes, qui étaient jusqu'à une dizaine d'années totalement incompréhensibles, et de reconstituer à la fois l'alphabet, la langue, la littérature, et maintenant les Mayas. La culture maya est en train de remonter à la surface de la civilisation qui est la leur. C'est-à-dire de retrouver tout simplement leurs livres et leur littérature. C'est tout simplement formidable.
Notre émission n'a qu'un défaut, Jean-Claude Simone, c'est d'intervenir après les vacances de Noël, parce que c'est exactement le genre de viatique que vous nous avez écrit là, qui permet de s'épanouir complètement dans le rêve et de s'évader à la recherche des civilisations disparues. Archéologues et aventurier de Jean-Claude Simone. C'est aux éditions Perrin. Et puis, je vous rappelle que cette exposition, encore la naissance d'un mythe autour de Louis de la Porte et du Cambodge, est prolongée. Elle devait s'arrêter là le 13 et elle est prolongée jusqu'au 27 janvier prochain au musée Guimet. Et il y aura même des soirées en nocturne ce mercredi et les deux mercredis suivants.
L'exposition est tout à fait exceptionnelle car Louis de la Porte a fait des moulages. Les moulages en question ont été refusés à l'époque par le Louvre, ont croupi dans les caves du château de Compiègne. Et là, actuellement, nous pouvons les voir au musée Guimet. C'est une merveille, ne ratez pas ça.
Il faut y aller. Merci beaucoup, Jean-Claude Simone.